Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Vous êtes peut-être un peu perdu face au Far West de la chirurgie dentaire, entre les professionnels très sérieux, les plus nombreux, et les margoulins plus intéressés par leur chiffre d'affaires que par votre santé bucco-dentaire, sans oublier les escrocs capables de vous extraire des dents saines pour y poser des prothèses très coûteuses. C'est ce que rappelle le nouveau hors-série de 60 millions de consommateurs consacré à nos dents. Alors comment bien choisir son dentiste et ses soins dentaires? C'est notre question du jour. Que faire quand un dentiste souhaite par exemple réaliser une radio panoramique alors que vous venez pour un simple détartrage? Comment savoir si un acte est vraiment essentiel? Que penser des centres dentaires qui se développent dans nos villes? Quels sont les dentifrices à éviter? Nos experts vous rappelleront également les règles de base pour prendre soin de nos dents. Toutes vos questions, vos expériences, vos témoignages au 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Votre dentiste, monsieur le directeur.
Bonjour, monsieur Duchemin. Vous êtes sûr que c'était prévu pour aujourd'hui?
Monsieur Duchemin, vous n'êtes pas mon client le plus facile, vous savez.
Et vous ne pouvez pas revenir demain parce qu'aujourd'hui je me sens...
Monsieur Duchemin, je suis venu avec mon appareil.
Et vous avez vraiment besoin de tout ça, non?
Ouvrez la bouche, monsieur Duchemin.
La bouche. La bouche.
Bonjour, professeur Vianney Descroix.
Bonjour, Ali.
Doyen de la faculté d'odontologie de l'université Paris-Cité et chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors, heureusement, aller chez le dentiste ne constitue plus le même calvaire qu'à l'époque de l'aile ou la cuisse. Quoique, on le verra, ça peut se révéler catastrophique dans certains cas. On le verra ce matin, on peut tomber sur des praticiens davantage intéressés par leur porte-monnaie que par la santé de leurs patients. Vos étudiants suivent des cours de déontologie, professeur Vianney Descroix?
Évidemment que tous les étudiants en chirurgie dentaire de Paris ou d'ailleurs ont pendant leur formation de nombreuses heures à l'éthique médicale et à la déontologie. Ça fait partie de la formation de tous les professionnels de santé.
Et rappelons que l'un des principes de prudence que l'on enseigne aux étudiants en médecine, en dentaire, en soins infirmiers, c'est en premier ne pas nuire, primum non nocere. Et on verra tout à l'heure que certains centres dentaires ont oublié ce principe majeur. Bonjour Sophie Kwan.
Bonjour.
Rédactrice en chef des hors-séries de 60 millions de consommateurs. Vous publiez un très bon hors-série spécial dents, prévenir et soigner, où vous pointez du doigt donc ceux qui ne font pas très bien leur travail.
Exactement. Il y a beaucoup de victimes qui se sont déclarées ces dernières années. Des gens qui ont été mutilés par leur dentiste. Alors, on vous le disiez très bien, hein, c'est pas la majorité, mais cette espèce de climat un peu de peur s'installe progressivement chez les gens, notamment ceux qui ont du mal à trouver un dentiste près de chez eux, comme votre consoeur l'a dit tout à l'heure.
Vous citez Pascal qui veut prendre rendez-vous pour un détartrage et on lui propose de passer une radio panoramique. Il refuse et il n'obtient pas son rendez-vous.
Et on lui dit au revoir monsieur. Alors c'est un cas très fréquent, on a beaucoup de courriers à ce sujet. La radio panoramique n'a pas à être faite en premier lieu. C'est un peu comme si vous alliez chez votre médecin et qu'il commençait par vous faire une radio des jambes pour savoir si vous aviez une jambe cassée alors que vous venez juste pour un check-up. Voilà, c'est exactement le même problème. La question est, peut-on se permettre de dire bah écoutez, non, je ne veux pas votre radio si votre dentiste vous dit au revoir monsieur, c'est pas toujours évident d'en trouver un derrière.
Professeur Vianney Descroix, il est absurde de demander une radio panoramique alors qu'on vient pour un détartrage.
Alors, c'est absurde et il ne faut pas à partir de cas comme ça particuliers faire des généralités autour de la pratique des chirurgiens dentistes. Alors évidemment, on peut revenir sur cette situation où effectivement on fait une radio après avoir fait un examen clinique. Pour autant, ce ne sont pas tous les chirurgiens dentistes, les 44 000 qui ont ce genre de pratique.
Bonjour docteur Never.
Bonjour.
Alors
bonjour,
c'est un pseudonyme, bien évidemment. Vous êtes chirurgien dentiste. Oui. Par déontologie, vous ne voulez pas l'on donne votre vrai nom. Vous parlez de votre métier sur TikTok, où l'on vous suit pour vos vidéos. Ne faites jamais ça, never. Où vous évoquez les mauvaises habitudes, les comportements à risque pour la santé bucco-dentaire. Et vous publiez chez Solar, souriez comme jamais. Qu'est-ce qu'un bon dentiste pour vous, docteur Never?
Qu'est-ce qu'un bon dentiste? C'est un dentiste qui va être bien à l'écoute de son patient, qui va bien pouvoir s'adapter voilà, à son patient, parce que bon, il y a des patients peut-être qui ont un peu peur, il y en a d'autres qui viennent, voilà, comme vous dites, quelqu'un qui bien écouter le motif de consultation aussi. Mais après, un bon dentiste, on dirait la différence entre un bon dentiste et un mauvais dentiste, c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Je vais vous dire, c'est déjà un dentiste qui a diplômé, qui a fait ses études,
heureusement,
et qui sait comment. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, oui. Après, c'est presque une notion qui est propre à chacun finalement.
Mais quand
c'est-à-dire
on me demande par exemple, quand on me demande par exemple si je connais un bon dentiste, je leur donne le numéro du mien, qui est compétent, pédagogue, à l'écoute, non, amoureux, en fait, de son, voilà, métier, et puis il a une hygiène absolument irréprochable. Professeur Vianney Descroix, qu'est-ce qu'un bon dentiste? Quels sont les critères fondamentaux qui distinguent un bon chirurgien dentiste d'un confrère, disons-le, très moyen?
Je dirais qu'un bon chirurgien dentiste est un médecin comme un autre, en fait. Et on se pose aussi la question de savoir ce que c'est qu'un bon médecin généraliste, un bon gynécologue, un bon ophtalmologue. Bah, ça va être d'abord quelqu'un qui replace la relation avec son patient au cœur de ses préoccupations. Tout se joue là, c'est-à-dire dans cette écoute, cette confiance, cette empathie, cette capacité, comme le disait le docteur Never, de pouvoir s'adapter à la situation médicale qu'il rencontre. Et que ça, c'est sur les 44 000 chirurgiens dentistes en France, la majorité des chirurgiens dentistes. Le bon chirurgien dentiste, c'est comme tous les bons professionnels de santé, c'est ceux qui replacent la relation au cœur de leurs préoccupations.
Sophie Kwan.
Alors, complètement d'accord sur l'aspect humain de la relation, c'est fondamental. C'est aussi quelqu'un qui va expliquer correctement les soins. C'est quelqu'un qui va dire, bon, alors voilà, vous avez tel problème, voici le type de solution qu'on peut mettre en place. C'est quelqu'un qui peut éventuellement aussi proposer des alternatives. C'est-à-dire, pas forcément, je vous arrache la dent. C'est quelqu'un qui va prendre son temps. Voilà, aussi. Et c'est d'ailleurs une des recommandations qu'on a dans ce numéro. Quand on a un dentiste qui explique pas beaucoup le problème qu'on en vient avec une douleur, il explique pas beaucoup. Tout de suite, il vous dit, va falloir arracher. Bon, alors, arracher une dent, ça veut dire que derrière, on va avoir des soins extrêmement coûteux. Bon, là, faut se méfier. Un bon dentiste, c'est quelqu'un qui va accepter de faire un devis. Voilà. Vous avez des dentistes qui ne le proposent pas. Vous voyez, des choses comme ça, qui sont de l'ordre de la relation aussi commerciale avec la personne, qui sont très importantes. La notion de devis, elle doit être au cœur de la relation avec le dentiste. Voilà.
Docteur Never, vous êtes à Marseille d'ailleurs.
Non, pas. Enfin, je dis pas exactement où je suis.
D'accord. vous nous avez menti.
Mais de toute façon, je ne suis pas à Marseille, donc ça tombe bien. C'est cool que vous ayez fait une petite erreur. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que là, effectivement, on parle du côté relationnel pour déterminer si on est devant un bon dentiste ou pas. Mais à côté de ça, je peux vous dire que en tant qu'étudiant, J'ai déjà eu des profs qui excellaient dans leur domaine, qui étaient des grands pontes et qui faisaient du travail exceptionnel, des trucs qui étaient publiés dans la littérature scientifique et tout, et qui à côté de ça avaient pas un bon côté relationnel, qui étaient assez froids avec les patients et tout ça. Donc en fait, vous voyez, quand je vous dis que c'est un peu subjectif, c'est que peut-être que quelqu'un va préférer vous voyez, un dentiste qui a pas un bon côté relationnel, mais qui par contre excelle dans son domaine. En fait, c'est, il y a pas non plus que le côté relationnel. Vous voyez, il peut aussi y avoir quelqu'un qui est super arrangeant avec les patients, qui a un super côté, qui est, vous voyez ce que je veux dire, qui parle bien, qui a la tchatche, etc. Qui est très, mais qui à côté est moins bon que le fameux professeur qui, vous voyez.
En sachant, docteur Never.
Donc en fait, c'est à prendre en compte, mais c'est un des critères.
En sachant, docteur Never, que la littérature scientifique montre bien que le lien thérapeutique, l'écoute, a des effets thérapeutiques, justement, professeur Vianney.
Oui, mais je crois que c'est pour ça qu'on replace vraiment la question de la confiance, parce que lorsque l'on sent qu'on est en confiance avec son praticien, c'est que c'est un praticien qui est à l'écoute, qui va être effectivement, va prendre son temps dans cette relation, va vous exposer les différentes possibilité thérapeutique. Évidemment qu'il est hors de question d'accepter des soins sans devis, sans ce qu'on appelle le consentement éclairé, qu'on retrouve dans toute la problématique des autres professions médicales. Pardon, j'insiste un peu, mais on a eu récemment des questions autour de la gynécologie. Le problème du consentement en santé est un problème majeur. C'est la question éthique de est-ce que j'autorise un être humain à mettre son propre corps dans mon corps sans un consentement. Donc, bien évidemment qu'autour de la question de la médecine bucco-dentaire, il y a la question de l'argent, parce que ces soins sont pris en charge de façon particulière. Mais l'argent n'est pas la question au cœur de la relation thérapeutique, de la relation de confiance. D'ailleurs, vous voyez, on est autour de plein de problèmes de stigmatisation, à la fois d'une profession, mais aussi d'une santé. C'est-à-dire que on n'arrache pas des dents, on les extrait, on fait des avulsions dentaires. Enfin, arracher, c'est exactement comme l'exemple sonore que vous mettez au début de votre émission. C'est un autre temps. On est en 2022. Sur les 44 000 chirurgiens dentistes, il n'y en a pas deux qui arrachent des dents. Vous voyez? Et le docteur Never a raison. Un bon chirurgien dentiste est celui qui a reçu aussi la bonne éducation, la bonne formation universitaire. Et que le combat aujourd'hui des doyens en chirurgie dentaire, c'est justement un combat autour de l'éducation, de la formation initiale. Vous avez la création de nouvelles facultés de chirurgie dentaire en France, il y en a 5. Notre combat, il est celui de la pédagogie, de la formation initiale. 30% des inscrits chirurgiens dentistes en France viennent d'autres pays que la France, et on se pose la question effectivement de leur formation. C'est des questions de fond, c'est des questions à la fois politiques, sociétales, de santé, auxquelles il faut qu'on puisse répondre.
Sophie Kwan.
En vérité, il y a la question de la formation du dentiste qui est évidente, et puis il y a la question également, pour aller plus loin, de la formation, enfin du rapport du patient à son dentiste. Et c'est vrai pour toutes les professions médicales. On a fait un numéro sur les yeux, c'est la même chose. C'est-à-dire, il faut être aussi consommateur de sa santé. C'est-à-dire, quand je vais acheter un lave-linge, je vais demander au vendeur quelles sont les tours minutes pour les orages, est-ce qu'il consomme beaucoup, est-ce qu'il est frontal, pas frontal. Et face à un dentiste, et plus largement face à la profession médicale, on a parfois peur, en tant que consommateur, en tant que patient, de poser des questions. Et beaucoup de nos lecteurs nous disent « Bah oui, mais bon, j'ose pas, parce que c'est lui l'expert. Mmh. »« Bah ouais, mais c'est vos dents !» Donc, je pense que ça aussi, c'est important de marteler que, en tant que patient, il faut aussi rétablir un peu cette relation et se dire que nous aussi, on peut poser des questions. Et si on se trouve en face d'un dentiste qui est avenant et qui veut bien nous répondre à nos questions, ce sera effectivement que du bon.
Et vous, docteur Never, vous répondez aux questions des patients, hein?
Oui, vous parlez dans ma pratique ou sur les réseaux ?
Sur les réseaux et dans votre livre.
Oui, en fait, en gros, c'est pour ça que j'ai commencé moi mon activité sur les réseaux, c'est que en fait, c'était pendant le confinement et j'ai commencé à faire une ou deux vidéos et j'ai vu qu'il y avait énormément de demandes, énormément de questions. Parce que les gens sont vraiment demandeurs hein, de conseils, tout ça sur la santé en général. Hein, je parle pas même que sur les dents, sur la santé en général. Et du coup, je me suis dit, ça va être un très bon moyen d'éduquer un peu les gens qui ont peut-être pas qui ont peut-être pas osé le demander à leur praticien comme il aurait fallu. Et donc, je donne des conseils effectivement aux gens sur tous les sujets et je réponds aux questions aussi. Et c'est vrai que des fois on se rend compte que les patients ont beaucoup 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 de questions et qu'ils n'osent pas les poser parce qu'ils sont un peu des fois, vous savez, des fois on est allongé, on a la bouche ouverte, on a au-dessus de nous un praticien en blouse blanche comme ça et des fois on n'a pas forcément le réflexe de poser des questions. Des fois, enfin, il y a des patients qui ont un peu qui se retrouvent là, qui préfèrent qui préfèrent faire le dentiste, faire son soin et pas le, vous voyez.
Professeur Vianney Descroix.
Donc c'est vrai que dans le livre, c'est vrai que dans mon livre et dans mes vidéos, j'essaye de répondre aux questions que tout le monde se pose.
Professeur Vianney Descroix.
C'est une question fondamentale et aujourd'hui, puisqu'on parle de la formation des chirurgiens dentistes, de leur formation initiale. Une des premières choses que l'on fait, c'est qu'on leur enseigne le rapport au patient, le rapport à l'autre, le rapport à soi. Et il y a une approche qui est aujourd'hui internationalement reconnue, qui s'appelle l'approche centrée patient, où on replace le patient au cœur de la question. Ce qui renverse en fait le dogme médical, où vous aviez à une certaine époque le docteur sachant, qui était vraiment dans un modèle très paternaliste, c'est lui qui savait, c'est lui qui connaissait mieux que personne ce dont la personne, le patient avait besoin. Et je peux vous dire qu'à l'Université Paris-Cité, à la faculté de chirurgie dentaire que je dirige, dès la deuxième année, le premier jour de leur formation, c'est une formation autour de l'approche centrée patient, dans cette manière d'être à l'autre. On travaille à la fois sur le savoir-faire, évidemment, il faut que le chirurgien dentiste maîtrise sa pratique, mais on travaille surtout sur le savoir-être, c'est-à-dire comment accueillir la souffrance de l'autre, son incompétence, sa non-connaissance de sa propre santé. Et ce que vous dites, c'est essentiel. Vous avez fait une émission extraordinaire hier sur le sucre. Toutes les maladies de la bouche, pratiquement, peuvent être évitées par la prévention. Comment on travaille sur la femme enceinte, comment on lui apprend que son bébé peut avoir des maladies de la bouche. Et si demain, 60 millions de Français ont une hygiène et une prévention irréprochables, il n'y aura plus de chirurgien-dentiste en France.
Tiens, vous me tendez la perche, j'aimerais qu'on revienne sur les bons gestes fondamentaux pour éviter au maximum d'aller chez un dentiste. Alors, il faudrait se brosser les dents au minimum 2 fois par jour, ou 2 fois suffisent?
Le meilleur geste, c'est d'aller voir quand même son chirurgien-dentiste régulièrement. Mmh. Ça, c'est d'abord un premier geste de prévention. Mmh. C'est de ne pas attendre d'être malade pour voir un docteur. C'est la visite annuelle qui est essentielle en médecine générale, qui est essentielle aussi en médecine bucco-dentaire. Pas aller faire une radio systématique, mais aller rencontrer un professionnel chirurgien-dentiste au moins 1 à 2 fois par an pour faire un contrôle, un bilan. Les enfants, les adolescents ont ces bilans qui sont pris en charge, les adultes doivent le faire. Après, effectivement, il y a une hygiène de vie, une hygiène alimentaire et puis une hygiène corporelle. Brosser les dents 3 minutes 2 fois par jour avec une brosse à dents souple, n'a pas besoin d'être une très haute niveau de technicité, ou une brosse à dents que l'on peut même trouver en grande surface électrique pour les gens qui ont plus de mal à brosser leurs dents. Je vous avoue que la mienne est électrique parce que j'ai du mal. Et puis un dentifrice qui est adapté en fonction de l'âge avec sa teneur en fluor. C'est la seule chose qu'on demande. Et puis se rincer la bouche. Et puis faire très attention, encore une fois, à des éléments essentiels, parce que ça va vous faire beaucoup de bien d'avoir une alimentation équilibrée, sans sucre, sans aliments cariogènes, et faire attention à ça.
Et docteur Never, est-il vrai qu'il faut attendre une demi-heure avant de se brosser les dents?
Oui, quand on a fini de manger.
Oui.
Par exemple, c'est surtout quand on a fini de manger quelque chose, par exemple, d'acide. Ou, donc l'acidité sur les dents va réaliser une usure des dents, donc une érosion des dents. Et si on se brosse les dents immédiatement après, en fait, ça va accentuer cette érosion. C'est-à-dire qu'on va additionner une abrasion, en fait. Enfin, l'action de la brosse à dents va agir avec l'acide qui est en bouche. En fait, c'est un peu comme si, au lieu de mettre du dentifrice sur votre brosse à dents, vous mettiez de l'acide sur votre brosse à dents pour vous brosser les dents. Donc, il faut attendre que le pH de la bouche est remonté, c'est-à-dire qu'il ne soit plus acide mais qu'il tende vers le neutre, pour pouvoir se brosser les dents. Et si vous voulez un peu accélérer ces 30 minutes, vous pouvez par exemple vous rincer la bouche avec de l'eau claire, vous pouvez mâcher un chewing-gum pendant 15 minutes, un chewing-gum sans sucre, bien sûr. Et voilà. Mais il ne faut pas se brosser les dents de suite après avoir vu par exemple un jus d'orange. Vous voyez?
Et il paraît qu'il ne faut pas se rincer la bouche après s'être brossé les dents. Et pourtant, on le fait tous.
Alors oui, alors ça c'est un conseil que même moi je n'arrive pas à tenir. Oui. C'est que il y a des sources qui conseillent de garder, en fait, de cracher l'excédent de dentifrice. D'accord. Quand on a fini de se brosser les dents, et d'en garder, enfin de ne pas se rincer la bouche pour que le dentifrice continue à agir, en fait, pendant plusieurs heures, par exemple, pour que le fluor continue à agir, etc. Mais moi personnellement, ça me fait une bouche pâteuse, j'arrive pas. Donc moi je me rince la bouche, par exemple. Oui. Donc vous voyez, c'est pas si on a déjà un bon brossage, ça suffit. Après, ce conseil est surtout à suivre par les gens qui ont, par exemple, beaucoup de caries, enfin qui ont un gros risque carieux finalement.
Faut-il éviter de brosser sa langue avec une brosse ou avec un racloir? J'ai contrasté dans ce que j'ai lu en préparant cette émission, docteur Never.
Alors, c'est deux choses différentes, parce que effectivement, il faut éviter de se brosser la langue avec les poils de sa brosse à dents, parce que ça peut faire des micro-irritations. En fait, ce qu'il faut, c'est soit utiliser du coup un gratte-langue, soit utiliser le dos de la brosse à dents qui est des fois, le dos de la tête de la brosse à dents qui est des fois prévu à cet effet. Des fois, il y a une petite surface siliconée qui est fait exprès. Et ça, ça peut être conseillé pour en cas, par exemple, en cas de mauvaise haleine. On peut conseiller de brosser la langue. Après, c'est pas systématique. Quelqu'un qui a pas de problème de mauvaise haleine et qui a un équilibre dans sa bouche, tout ça, n'est pas obligé de brosser sa langue à chaque brossage. Moi je brosse pas ma langue, par exemple. Mais ceux qui doivent brosser leur langue doivent utiliser les instruments adaptés.
Professeur Viennet-Descroix, d'autres conseils pour préserver sa santé bucco-dentaire avant la visite annuelle chez le dentiste?
C'est vraiment important de considérer que, encore une fois, la santé de la bouche est quelque chose qui peut être très facile, très simple, même très bonne pour la santé. La bouche, c'est le reflet finalement de notre l'endroit où on vit, de notre environnement, de notre façon de vivre. Ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, avoir une alimentation équilibrée, prendre le temps, 3 minutes, 2 fois par jour de se brosser les dents, en fait, c'est prendre soin de soi et ça, c'est la meilleure façon de garder une bonne santé bucco-dentaire.
Et évidemment, il faut consulter rapidement dans certains cas, en cas de saignement de la gencive répétée, une sensibilité soudaine au chaud et au froid, des douleurs à la mastication, et quand le mal de dents persiste en dépit de la prise d'antidouleurs. Dans ces cas-là,
je dirais même que la prise d'antidouleurs, d'antalgiques, que ce soit du paracétamol ou d'autres, doit être extrêmement ponctuelle et toujours dans l'attente d'un rendez-vous que l'on a déjà. Il ne faut pas s'automédiquer sur des douleurs dentaires qui peuvent devenir dramatiques parce que les antalgiques vont couvrir le développement d'une infection, par exemple. Et malheureusement, parfois, on voit arriver les gens aux urgences de la Pitié-Salpêtrière dans des états infectieux très graves parce que ça fait 10 jours, 15 jours qu'ils s'automédiquent avec des antalgiques.
Dans un instant, on reviendra sur la prolifération des centres dentaires dans nos villes. Et on écoutera Céline qui nous parlera des déserts médicaux concernant les dentistes. Ce sera juste après avoir écouté Françoise Hardy, La maison où j'ai grandi, un titre de 1966 à 10h28. Le standard vous est ouvert, 01 45 24 7000.
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis, ils savaient si bien partager mes jeux, mais tout doit finir pourtant dans la vie, et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Toute une ville qui s'endort la nuit dans la chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire, et il me semble que je m'entends leur dire, je reviendrai un jour un beau matin parmi vos rires. Oui, je prendrai un jour le premier train du souvenir. Le temps a passé et me revoilà, cherchant en vain la maison que j'aimais. Où sont les pierres et où sont les roses, toutes ces choses auxquelles je tenais.
Françoise Hardy, La maison où j'ai grandi.
Est-ce que les piqûres commencent à faire leur effet?
C'est-à-dire qu'en fait, ça fait un petit peu, à mon avis, il faudra voir pour prendre.
Grand bien vous fasse.
Il dit qu'il a deux dents au fond qui lui font très très mal, c'était possible de lui arracher.
Mais non!
Sur France Inter.
Comment bien choisir son dentiste et ses soins dentaires? C'est notre thème ce matin et nous accueillons Céline. Bienvenue Céline.
Bonjour Ali, bonjour à l'équipe.
Je suis ravi de vous avoir. Céline, vous vivez hélas dans un désert médical. Hein.
C'est ça, j'habite le Cotentin, donc tout en haut de la Manche, où il est très difficile de trouver des praticiens spécialistes, donc ophtalmo, etc. Mais les dentistes n'échappent pas à la règle. Et ça donne des situations ubuesques en cas d'urgence, par exemple, où on a un numéro d'urgence à appeler. Au bout de 10 minutes d'attente, on nous donne un numéro de cabinet qui a un message enregistré, qui nous dit qu'ils ne prennent pas d'urgence et qu'en cas d'urgence, il faut appeler le numéro d'urgence.
Et vous nous avez dit, hors antenne, au standard, que vous étiez parfois confronté à des situations ubuesques.
Ben oui, celle-là notamment, ce qui fait que quand on trouve enfin un praticien qui accepte de nous prendre dans sa patientèle, on a la sensation d'avoir trouvé une licorne, hein, presque. Et je pense que les praticiens savent très bien qu'on n'a pas vraiment le choix, en fait, et qu'ils s'autorisent à abuser un peu de la situation. Un exemple concret, mon conjoint s'est vu imposer un surfaçage. Alors, je vais profiter de la présence de vos experts pour demander plus de précision.
Professeur Vianney-Descroix, c'est quoi un surfaçage?
C'est une manière de prendre soin des gencives et de l'os qui est autour de la dent, où on va aller sous la gencive enlever le tartre. C'est un traitement chirurgical très spécifique dans des indications très spécifiques.
Céline? Et donc
une mode hein, par chez nous, parce que la quasi-totalité de la salle d'attente attendait pour un surfaçage. Donc c'est non seulement très onéreux, mais aussi très douloureux. Oh. Et on n'a pas eu l'impression de pouvoir le refuser, en fait.
Alors sachez Céline que 28 jours, il faut 28 jours d'attente, c'est le temps moyen pour obtenir un rendez-vous en France. Dans certains cas, l'attente peut se prolonger jusqu'à 67 jours. Certains sont donc tentés de se tourner vers des centres dentaires dans les grandes villes. Ça vous a tenté, vous, Céline?
Ah mais nous, on a tenté. On a même tenté, alors nous, on habite le Cotentin, on a tenté de descendre sur Saint-Lô, on a même tenté d'aller à Rennes.
Ouais. Et vous n'avez pas trouvé de place?
Ah non.
D'accord. Sophie Kwan, merci beaucoup hein, Céline pour votre témoignage. En 4 ans, le nombre des centres dentaires a explosé hein, dans les villes.
Ah oui, plus 67%. Et vous savez combien de centres dentaires se sont ouverts depuis le début de l'année? 250. Alors, il y a deux types de centres dentaires, faut le savoir. Il y a les centres dentaires mutualistes, qui sont affiliés à des mutuelles. Ouais. Donc, quand vous avez des difficultés à trouver un dentiste, ça peut être une réflexion également de téléphoner à sa mutuelle pour savoir s'ils ont des centres dentaires mutualistes dans leur partenariat. Les autres types de centres, ce sont des centres dentaires associatifs. Alors, leur naissance est née d'une très bonne intention de la loi Bachelot de 2009. L'idée, c'était effectivement de fournir aux déserts médicaux des centres dentaires pour soulager les patients sous forme associative, qui serait très facile à créer, qui pourrait s'installer très vite.
Ces centres dentaires sont censés être associatifs, mais les dérives se multiplient. Le statut associatif de ces centres dentaires a pu être contourné. Par exemple, une filiale du groupe Carrefour a ouvert des centres dentaires Vertuo Santé dans ces centres commerciaux. Et puis, les centres Dentego sont aujourd'hui valorisés à 300 millions d'euros.
Oui, c'est un vrai business. Et c'est dommage, parce que l'idée de l'association, c'était justement de proposer aux patients des tarifs très bas.
Et vous le rappelez dans votre hors-série, on assiste parfois à des dérives dans les méthodes de management, où l'on pousse des jeunes diplômés à faire du chiffre et à réaliser toujours plus de devis.
Alors, à la manière de ce qui se passe dans les fast-food, par exemple, avec l'employé du jour. Aujourd'hui, les amis, on va faire du chiffre. Aujourd'hui, il faut faire... votre chiffre d'affaires doit arriver à tel niveau. Et donc, pour faire du chiffre d'affaires, il n'y a pas 36 solutions.
Et la conséquence, c'est que la recherche du profit conduit au surtraitement des problèmes dentaires.
Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé avec Dentexia, où on proposait aux gens qui arrivaient parfois juste pour un détartrage ou un petit mal de dents, on leur arrachait les dents ou on leur limait les dents, on leur proposait des soins extrêmement coûteux. on leur demandait de s'endetter, on leur proposait de faire des crédits, et on a comme ça 3000 victimes aujourd'hui qui sont sérieusement mutilées, justement parce que ça permettait de faire un chiffre d'affaires assez faramineux.
Professeur Vianney-Descroix.
Oui, je crois qu'il faut pas faire d'amalgame sans jeu de mots. Sur les 44 000 chirurgiens dentistes, vous en avez 7% qui travaillent dans les centres dentaires. Comme l'a redit Sophie Coigne, il y a deux grands types de centres dentaires mutualistes et associatifs. Qu'effectivement, on a vu depuis la loi HPST une augmentation considérable des centres. Ils sont en train de se stabiliser parce que, encore une fois, ils ne répondent pas aux besoins initials. Mmh. Ils ne sont pas en zone blanche, ils ne sont pas dans les déserts médicaux. Vous venez à Paris, en fait, ils sont le long du métro, hein, de tous les métros et des gros RER. Il n'y a pas de centre dentaire associatif sans chirurgien dentiste, c'est une évidence, mais il n'y en a pas non plus sans patient. Mmh. Donc, il faut être très prudent sur ne pas faire d'amalgame entre la profession de chirurgien dentiste et tous les syndicats, le Conseil de l'Ordre, la conférence des doyens en France sont vent debout contre ces modèles économiques, qui sont des modèles économiques, encore une fois. Il faut qu'on alerte effectivement les patients, les Français sur ces dérives-là. C'est effectivement, pour notre profession, une tâche très importante. Il y a une dérive en ophtalmologie aujourd'hui, pour la biologie bien aussi, sûr. Pour la radiologie. Donc, il faut qu'on soit très vigilant vis-à-vis de ces centres dentaires ou autres qui pourraient détourner à des profits financiers des problèmes de santé. Et rappeler effectivement aux patients, aux Français, que il faut être extrêmement vigilant. On ne peut pas vous contraindre à des soins, on ne peut pas vous contraindre à faire des radiographies, on ne peut pas vous contraindre à des chirurgies. Vous avez à tout moment le droit de dire stop. Et effectivement, ça ne résoudra pas aujourd'hui la problème majeur des déserts médicaux, mais c'est une vraie question.
Sophie Coigne, vous proposez un très bon papier, comment repérer un dentiste peu scrupuleux. En mai dernier, le ministère de la Santé et le Conseil national des chirurgiens dentistes ont publié des conseils pour une bonne prise en charge bucco-dentaire. Alors, le non-respect de certains points peut nous mettre la puce à l'oreille. Vous pouvez en citer quelques-uns peut-être ?
Ah oui, alors on a parlé de la radio panoramique avant même de s'asseoir dans le siège du dentiste. Au-delà de 70 euros, vous devez demander un devis et le dentiste doit accepter de vous faire un devis. Quand les traitements commencent à être lourds, qu'il y a des extractions dentaires, plusieurs, il est très conseillé de demander un second avis et le chirurgien dentiste ne doit pas vous dissuader d'aller voir un confrère, évidemment. Vous n'avez pas à payer de soins en avance, alors il peut y avoir un acompte raisonnable, mais raisonnable. Et surtout, le dentiste n'a pas à vous demander de contracter un prêt, voire vous proposer parfois des courtiers qui peuvent le faire pour vous. Voilà, ça c'est les 5 premiers points. Il y en a beaucoup d'autres, notamment sur la façon dont le devis est rédigé, où vous pouvez également demander l'origine des implants. Enfin, il y a beaucoup d'infos qui doivent vous être données, en particulier si vous avez des soins très coûteux.
Alors, de plus en plus de patients se rendent à l'étranger pour soigner leurs dents, en Espagne, en Turquie ou en Hongrie. Dans ces pays, le coût des implants est parfois divisé par 2, même par 5. Qu'en pensez-vous, professeur Vianney-Descroix ? Je pressens votre réponse.
Bah, oui, parce que le tourisme médical, c'est vrai pour la médecine bucco-dentaire, c'est vrai pour la chirurgie esthétique, c'est vrai pour plein d'autres domaines de la médecine, et c'est forcément une prise de risque considérable. C'est un pari absolument monstrueux que l'on fait. Et ça revient à ce que disait un petit peu Sophie Coigne tout à l'heure, c'est-à-dire notre responsabilité en tant que patient nous-mêmes vis-à-vis de notre santé. On ne peut pas faire n'importe quoi d'abord nous-mêmes vis-à-vis de notre santé. Il faut qu'on soit un peu responsable. Et prendre le risque d'aller faire poser des implants dentaires dans un pays étranger qui est peut-être très très bien, mais on n'aura pas de suivi, on n'aura pas la possibilité de rappeler son praticien. C'est vraiment une prise de risque considérable.
Sophie Coigne.
Ah oui, tout à fait. Faut savoir
vous déconseillez à 60 millions de consommateurs de se rendre à l'étranger pour des soins dentaires ?
Bon, alors nous, on déconseille. Et puis, pour ceux qui veulent absolument le faire, on conseille quand même une marche à suivre, des précautions à prendre. La première chose étant de vérifier qu'il y a un conseil de l'ordre dans le pays en question, parce que si jamais il y a des problèmes, c'est à ça qu'il faut penser. S'il y a des problèmes, qu'est-ce que je fais ? S'il y a un conseil de l'ordre, vous pouvez vous appuyer sur ce conseil de l'ordre pour commencer les poursuites. Parce que, comme le dit votre invité, si vous avez des problèmes en France, vous aurez a parfois du mal à trouver un dentiste qui voudra vous soigner derrière. Donc, faut prendre ça en considération. La France est un des pays où on est le mieux suivi s'il y a des problèmes dentaires derrière. Il faut, je pense, vraiment miser sur notre pays, d'autant qu'il y a aussi des soins qui sont désormais beaucoup moins chers, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Si vous voulez faire des soins à l'étranger, ceux qu'on déconseille, c'est ceinture et bretelles.
Docteur Never, c'est bien souvent la recherche d'un sourire parfait qui pousse à faire du tourisme médical dans ces pays, Hongrie, Roumanie, Turquie.
Oui, et malheureusement, la recherche d'un sourire parfait passe des fois par dans certains pays par justement un surtraitement et quelquefois par des mutilations de dents inutiles. C'est-à-dire que en France, des patients pourraient se retrouver face à un praticien qui leur dirait « Mais non, pas du tout, là, vous avez des dents saines, je vais pas les tailler pour poser des couronnes. » Et les patients à l'étranger vont peut-être se retrouver face à des dentistes qui n'ont pas du tout la même déontologie et qui pourront leur dire « Bah oui, je vous taille toutes les dents. » Et ça, je l'invente pas. Et j'ai de nombreux cas en vidéo de patients qui sont partis, alors je dirais pas le pays, mais c'est toujours dans le même, qui sont partis à l'étranger faire des facettes dentaires. Donc des facettes dentaires, il y a une préparation pelliculaire de la dent, c'est pas une grosse mutilation de la dent, mais qui se retrouve avec des couronnes sur toutes les dents, qui se retrouve à s'être fait mutiler toutes les dents, taillées un peu comme des dents de requin, un peu en moignon, je sais pas si vous voyez.
Non, je vois pas, mais.
Comment c'est? Et ben, c'est comme si, vous regardez, c'est un peu comme si les dents étaient en pointe.
Ah oui.
De partout, sauf que c'est, donc en fait, on taille les dents très proche du nerf. Et ça, c'est quelque chose qui ne se serait pas fait en France. Mais il y a des patients très jeunes, souvent, parce que il y a les patients jeunes qui veulent des sourires de star, qui vont à l'étranger parce que c'est moins cher, et ben ils se retrouvent avec toutes leurs dents mutilées. Et ça, c'est un gros fléau dont je parle beaucoup sur mes réseaux. Et j'ai montré des vidéos.
Professeur, on vient de perdre le docteur Never, mais on va le retrouver. Professeur Vénet-Descroix, qu'avez-vous envie de dire à ces jeunes là qui recherchent un sourire parfait et qui sont tentés de partir à l'étranger pour des raisons de coût?
D'abord, il faut resituer la question. La médecine bucco-dentaire est une médecine comme une autre. On n'est pas dans le monde de l'esthétique, on n'est pas dans le monde de la cosmétologie. C'est un des points forts que nous aurons en France avec des praticiens qui ont un peu de déontologie. On ne va pas mutiler des gens pour des aspects esthétiques si l'aspect n'est que esthétique. Vous avez un très joli dossier sur l'orthodontie, c'est la même façon. C'est-à-dire que les chirurgiens dentistes ne sont pas là pour faire des jolis sourires. Ce sont encore une fois des professionnels de santé. S'il y a une indication pour faire des traitements, ils font des traitements, mais on ne les fait pas à des fins purement de cosmétologie, ça n'a pas de sens.
Aude nous écrit « J'attends mon rendez-vous, dentiste semestriel avec joie. Je suis au calme, allongé sur le fauteuil. On papote avec la dentiste, enfin comme je peux, dit-elle. C'est relaxant. Merci à ces professionnels qui permettent une pause dans le tourbillon du quotidien. C'est assez rare.
Voilà,
on vienne chez le dentiste de façon aussi relaxée. Hein.
C'est l'image du chirurgien dentiste moderne, français. Chez lequel on va en toute confiance. Parfois, les situations médicales sont lourdes, parce qu'on en a beaucoup parlé de la carie dentaire, de la gingivite, mais les chirurgiens dentistes font aussi des diagnostics de maladies des muqueuses qui sont graves, de cancers qui peuvent être graves. Ils peuvent faire des aides au sevrage tabagique, ils font de l'éducation thérapeutique. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas une profession comme, excusez-moi, un coiffeur ou autre chose. C'est une profession médicale. Ce sont des docteurs, ils ont entre 6 et 10 ans d'études derrière eux, ils prennent des responsabilités, ils les assume, et on ne va pas chez son chirurgien dentiste comme ça par hasard. Alors on peut y être très bien, c'est tant mieux.
Sophie Kwan, dans votre hors-série, vous vous demandez comment choisir entre le brossage électrique et le brossage manuel.
Oui,
vous pensez appartenir à quelle équipe, vous?
Comment? Ah, moi, je fais partie de la team électrique. Mes enfants, par exemple, c'est la team manuelle, voyez, et on passe de l'un à l'autre.
Quels sont les avantages et inconvénients?
Très clairement, on voit aujourd'hui qu'avec les nouvelles brosses à dents électriques, qui sont assez abordables, vous en avez dans le commerce.
À partir de 25-30 euros.
À partir de 25-30 euros, on voit bien qu'on a une efficacité de brossage qui est quand même meilleure avec l'électrique. Encore faut-il savoir s'en servir.
Tiens, donnez-nous le mode d'emploi pour bien s'en servir.
Ah bah, par exemple, en fonction de la mode du mode de rotation de votre brosse à dents, alors attention, ça va rentrer dans soit un mode rotatoire, soit un mode ultrasonique, on n'aura pas les mêmes mouvements. Et c'est là où les chirurgiens dentistes aussi participent à ça. Hein, c'est fait partie de leur métier de faire ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Comment on se brosse les dents en fonction de la morphologie de vos dents, de votre bouche, quelle brosse à dents ils peuvent vous conseiller.
Il ne faut pas hésiter à poser ces questions-là à son dentiste.
Ah bah, non seulement il ne faut pas hésiter, mais il ne faut pas sortir du cabinet sans avoir eu ses conseils. Est-ce qu'il faut utiliser le fil dentaire? Est-ce qu'il faut utiliser les brossettes dentaires? Tout ça participe fondamentalement au métier du chirurgien dentiste.
On n'utilise pas suffisamment les brossettes dentaires et le fil dentaire en France?
On n'insiste pas assez en France, effectivement, sans doute, sur l'utilisation de ces objets d'hygiène bucco-dentaire qui vont permettre d'aller entre les dents bien nettoyées, parce que c'est souvent là où on a le développement des premières caries qui passent un peu inaperçues et malheureusement qu'on va détecter un peu tard. Donc on devrait un peu plus insister, mais là aussi, il ne faut pas faire d'automédication. Le maniement du fil dentaire n'est pas anodin, l'utilisation des brossettes n'est pas anodin, et pour que ça soit bien fait, il faut avoir le conseil d'un chirurgien dentiste.
Tiens, docteur Never, quels sont les bons gestes pour se brosser les dents manuellement? Quel est le principe fondamental?
Alors, pour se brosser les dents manuellement de manière efficace, il y a plusieurs règles à suivre. Déjà, il faut se brosser toujours de la gencive vers la dent, du rose vers le blanc. Il faut toujours regarder, ça c'est du rose vers le blanc, c'est un brossage vertical, donc toujours du rose vers le blanc. C'est-à-dire que, par exemple, si on réfléchit, enfin si on se brosse à l'arcade supérieure, donc les dents du haut, ça va être du haut vers le bas. Mais après, on repart pas du bas vers le haut, c'est vraiment haut vers le bas, haut vers le bas, haut vers le bas, du rose vers le blanc, et on fait pas un brossage horizontal. Ensuite, il faut suivre un trajet, c'est-à-dire qu'il ne faut faut pas oublier d'endroit. D'accord, il y en a qui prennent leur brosse à dents, qui brossent un peu à gauche, un peu à droite, un peu là, mais il y a des zones qu'ils ont oubliées. Donc il faut partir d'un endroit et arriver à un autre endroit, il faut suivre un trajet et il faut être sûr d'avoir brossé toutes ses dents. Donc par exemple vous tournez comme les aiguilles d'une montre, enfin vous voyez il faut toujours suivre un trajet. Et après, évidemment, il ne faut pas oublier les espaces interdentaires. Donc, on parle du brossage manuel, mais il faut toujours l'associer avec le brossage interdentaire. Il faut toujours parler soit du fil dentaire, soit des brossettes. Enfin, vous voyez, c'est très important.
Dans quelques instants, nous verrons comment choisir son dentifrice et éviter ceux qui contiennent des substances problématiques comme le dioxyde de titane. Et nous répondrons à Josie qui nous dit que nos conseils sont formidables, mais que faire quand on a peur d'aller chez le dentiste? Ce sera juste après avoir écouté Gabriel, ce qu'interprète Remember Me. My love, your devotion, perfect storms at the same emotion. Infatuation took me by surprise. Now I see nothing when I look into your eyes. Give a little time, space to breathe, little room, baby, to remember me. The thing that's real, oh, 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 oh. What kind of woman would want to shame a man after I did everything, all that I. As the years gone by, we've grown with the pain. But I just can't keep standing in the rain. Give a little time, space to breathe, a little room, baby, to remember me. A little time. Yeah.
Gabriels interprétait Remember Me.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Grand bien vous fasse.
Comment bien choisir son dentiste et ses soins dentaires, c'est notre thème ce matin. Professeur Vianney Descroix, Josie nous dit que nos conseils sont formidables, mais que faire quand on a peur d'aller chez le dentiste ?
La première chose à faire, c'est en discuter avec son chirurgien dentiste, parce qu'on est tous formés, on est tous sensibilisés, parce que c'est une émotion très commune. L'anxiété liée aux soins dentaires, et que tous les chirurgiens dentistes ont différentes méthodes. Certains, ça va être l'hypnose médicale, d'autres vont utiliser le gaz hilarant, certains vont avoir des casques de réalité virtuelle pour vous faire passer un moment agréable. D'autres sont équipés avec des systèmes de distraction. Donc, une très belle étude assez ancienne maintenant qui montre que quand on parle de son anxiété, ça fait déjà diminuer l'anxiété, et qu'il n'y a pas un chirurgien dentiste en France qui ne connaît pas cette question-là. Et nos étudiants, c'est pareil, dans nos facultés, sont formés très tôt à la prise en charge de cette émotion désagréable chez le chirurgien dentiste.
Sophie Kouane, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du hors-série de 60 millions de consommateurs consacrés aux dents. Comment choisir son dentifrice ? C'est l'un des chapitres. Certains dentifrices sont trop abrasifs ou contiennent des substances controversées, comme le dioxyde de titane que l'on peut retrouver sous les codes CI77891 ou E171. Et Françoise nous pose la question, pourquoi la quasi-totalité des dentifrices contiennent-ils du dioxyde de titane ? C'est plusieurs études montrent une toxicité, voire un potentiel carcinogène chez l'animal, et le dioxyde de titane pourrait favoriser le cancer colorectal.
Oui, tout à fait. Il est d'ailleurs interdit désormais dans l'alimentation, puisqu'il était utilisé là-dedans. Il est encore dans certains cosmétiques. Et on se pose la question de sa présence dans les dentifrices, puisqu'on les met quand même au minimum 2 fois par jour dans la bouche toute sa vie. Donc, on attend impatiemment que ce soit interdit. Alors ici,
comment savoir si notre dentifrice contient du dioxyde de titane ?
Alors, il faut prendre ses lunettes ou sa loupe et regarder attentivement les ingrédients qui sont notés sur la boîte en général, et non pas sur le tube.
Donc il faut repérer E171 ou CI77891.
Alors exactement, et seule la moitié des 12 dentifrices qu'on a regardés en contiennent, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que vous allez quand même en trouver pas mal qui n'en contiennent plus, parce que de plus en plus les fabricants cherche à se débarrasser de cet opacifiant dont, franchement, on n'a pas forcément besoin.
Deux dentifrices dans votre banc d'essai sortent du lot. Alors, c'est le dentifrice Carrefour Soft Bio Fraîcheur et le Elgidium dent sensible. Et pour les enfants, le Fluocaryl Gel Bifluori Kids à la fraise, c'est ça ?
Mais oui, alors...
Ils sont bien notés.
Le Carrefour, en plus, il est vraiment pas cher. Ils n'ont pas de dioxyde de titane. Ils ont les bons dosages de fluor. Et ils sont pas blanchis sans non plus. L'Elgidium a une petite action sur la sensibilité dentaire. On parlait tout à l'heure, docteur Descroix parlait tout à l'heure de la notion de bonne dose de fluor dans le dentifrice. Le fluor, on le conseille. Vraiment, c'est une mode à l'heure actuelle d'essayer d'avoir des dentifrices sans fluor. Ouais, mais... C'est vraiment pas une bonne idée. Le fluor, toutes les études scientifiques montrent que ça améliore, ça diminue de 24% le risque carieux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rechercher absolument dans le dentifrice.
Et vous parlez sous l'assentiment du professeur Descroix.
Évidemment, il faut les dentifrices. Alors, il y a 2 choses. Il y a le dentifrice en automédication du quotidien, et là, celui qui est le plus propre possible, entre guillemets, avec encore une fois le seul ingrédient qui nous intéresse, c'est le fluor, donc un dentifrice même bio-fluoré, et puis dans des indications médicales sur prescription du chirurgien dentiste, pour de la sensibilité, pour des problèmes infectieux ou inflammatoires, ça sera d'autres dentifrices.
En tout cas, dans 60 millions de consommateurs, vous ne conseillez pas les produits de blanchiment. Quasiment tous les produits que vous avez testés sont presque tous mal notés, ou alors ils ont des notes très très médiocres.
Ah oui, alors déjà les dentifrices de blanchiment, type puisqu'on cite des marques émail diamant avec du charbon, voilà, c'est très abrasif, donc c'est quelque chose qu'il faut utiliser vraiment avec parcimonie. Et les produits de blanchiment, là il y en a beaucoup de problématiques parce qu'ils sont souvent surdosés.
Merci beaucoup, professeur Vianney Descroix. Vous reviendrez dans cette émission. Merci, docteur Never. Votre livre Souriez comme jamais est publié chez Solar. Merci, Sophie Kwan. Le hors-série spécial dents est disponible en kiosque. Alors, j'aimerais terminer l'émission avec la voix truculente d'un écrivain qu'on aimait beaucoup à Grand Bien Vous Fasse, Jean Tellet. Il est venu dans cette émission le 7 octobre 2016. Un type vraiment bien, dixit notre programmatrice Alexia Rivière qui le connaissait bien. On écoute.
Oui, donc puis ça existe le bonheur. Ouais. Pour moi, le bonheur, c'est d'être à un endroit ou avec quelqu'un et de se dire tout d'un coup, est-ce que j'aurais envie d'être ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Et non, ouais, par exemple là, pour l'instant, je suis plutôt dans du bonheur. Hein. Peut-être que à la fin de l'émission, je dirais j'aurais préféré en faire une autre. Mais là, j'ai pas envie d'être ailleurs. J'ai pas envie d'être avec d'autres gens.
Le déjà regretté Jean Tellet dans Grand Bien Vous Fasse le 7 octobre 2016. Je vous conseille de lire Les Beaux Portraits de Jean Tellet paru ce matin dans la presse, signé Yves Jéglet dans Le Parisien ou Frédéric Roussel dans Libération. Je cite Jean Tellet dans Libé. Je suis paumé avec ces réseaux sociaux, alors je me réfugie dans d'autres époques. On a envie d'échapper à ce quotidien qui se resserre de plus en plus pour devenir un monde en noir et blanc, puant la vieille chaussette. Célébrons Jean Tellet en le lisant. Demain, Grand Bien Vous Fasse loisir, plaisir, curiosité, consacré au plaisir des beaux objets.